Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un certain nombre de formules d'expression montrent comment certains individus sont définis ou représentés en fonction des émotions qu'il ou elle manifeste. On dit par exemple d'un enfant qu'il est joyeux, timide ou encore colérique lorsqu'il exprime ses exigences à coups de cris et de pleurs. Si certaines émotions sont encouragées, valorisées, comme la joie ou la propension à garder son calme, d'autres, à l'inverse, peuvent être jugées déplacées, voire carrément provoquer un malaise physique et à terme un mal-être. Anxiété ou tristesse qui prennent le pas sur les autres émotions submergent et peuvent nuire ou abîmer une relation. Certaines de nos émotions sont tellement intenses qu'elles peuvent même nous rendre invivables ou insupportables, y compris à nos propres yeux. Alors on voudrait retrouver la sérénité, réfréner certains comportements excessifs, éviter d'exploser en sanglots, de donner de la voix ou à l'inverse d'être incapable de sortir de sa réserve et de trouver l'assurance de dire les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre d'où viennent ces émotions, lesquelles sont nos alliés et à l'inverse, desquelles se méfier. On attend vos questions, vos témoignages. 33 84 22 75 75. Connaître, gérer ses émotions avec, pour répondre à toutes nos questions, à toutes vos questions surtout, docteur Marie-Claude Gavard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute et auteur de l'ouvrage « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ?» publié aux éditions Marabout. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Bénin le professeur Prosper Gandao. Il est chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire de Borgou à Parakou. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marie-Claude Gavard, pour commencer, question très directe. Est-ce qu'il existe de bonnes et de mauvaises émotions ?
Alors, bon, je pense qu'il est important de voir que ce sont des émotions et cela dépend de chacun. Il y en a qui sont intolérants à ce qu'ils ressentent, donc ils vont dire que ce sont de mauvaises émotions, mais souvent ça peut être une information sur leur personnalité et leur façon d'agir.
Est-ce que c'est davantage l'entourage qui va dire « là, cette émotion, elle me gêne » ou est-ce que c'est l'individu qui va mal vivre avec cette émotion ?
Ah, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Quelqu'un qui est soumis à une colère importante, donc qui est toujours volcanique, va être très inconfortable et son entourage peut lui en faire le reproche.
Et aller même vers des actes de violence, donc arrêter ses émotions avant qu'elles ne débouchent sur des actions regrettables.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut les comprendre. Comprendre l'enchaînement de l'émotion et du passage à l'acte éventuel.
Alors, les émotions, l'expression de ces émotions, c'est bien sûr aussi une question de culture, de notre bain culturel. On ne va pas tomber, bien sûr, dans le préjugé ou dans les, justement ces images, ces stigmatisations en fonction de telle ou telle origine. Mais il existe quand même des cultures où on dit les choses, où on fait savoir les choses avec plus ou moins de retenue, plus ou moins de calme.
Oui, tout à fait. Les différences culturelles sont fondamentales à connaître, notamment en psychiatrie, parce que quelquefois, des symptômes peuvent être envisagés comme pathologiques, vraiment un symptôme dans un endroit et pas du tout dans un autre.
Alors, qu'est-ce qui entre en jeu justement par rapport à ça quand les personnes vivent mal avec leurs émotions? Ça veut dire qu'on peut engager un travail pour essayer d'ajuster, de corriger certaines choses,
docteur Gavard ? Oui, certainement. C'est-à-dire, c'est comprendre ce qui s'est passé très souvent dans l'enfance, ensuite les aléas de la vie, mais très souvent dans l'enfance, il y a une éducation qui a pu réfréner certaines choses et très fréquemment, le manque de confiance en soi qui s'est instauré entraîne par exemple une timidité, une peur de parler en public et un malaise presque constant de dévalorisation personnelle.
Et on peut s'interroger justement sur cette incapacité à réfréner certaines émotions quand soi-même on ne se supporte pas, on dit « je peux plus me voir en peinture quand je fais ci ou quand je fais ça ». Comment se fait-il, docteur Marie-Claude Gavard, qu'on n'ait pas sur soi-même cette possibilité de nous contrôler.
Alors, nous avons une possibilité de nous contrôler, et d'ailleurs c'est socialement absolument indispensable. Quelquefois, nous sommes dépassés. Et dépassés, c'est un signal fort pour comprendre ce qui se passe et changer les choses qui font que nous sommes dépassés.
Et le stress, par exemple, est-ce que c'est, on va dire, une émotion ou davantage le résultat d'une émotion ?
Alors, le stress est un signal fort de notre inconscient qui réagit à quelque chose qui nous perturbe et qui est un signal très intéressant à étudier pour voir ce que l'on peut faire pour ne plus être dans cette zone de stress.
Et justement, les répercussions physiques de certaines de nos émotions, quand on dit par exemple qu'on a des suées, quand on a peur, quand on a la chair de poule, comment est-ce qu'on explique justement ces connexions entre ce ressenti et des manifestations physiques ?
Ah, parce que de toute façon, avec tout notre système hormonal, il y a une interaction énorme entre le psychisme et notre corps.
Avec justement des sentiments parfois qui peuvent nous complètement nous tétaniser, nous effrayer. On a un message Facebook, par exemple, qui nous vient de la République démocratique du Congo. C'est Kevin et il dit, on voit bien, terreur face à la mort. Quand je pense qu'un jour je serai dans la tombe, ça me fait trop peur. Ce genre d'angoisse, de peur de la mort qui peut bloquer l'individu dans son existence, c'est quelque chose qui est fréquent ?
Oui, c'est extrêmement fréquent. La peur de la mort est comme un voile qui est tiré sur la vie de beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, les croyances à une vie après la mort servent aussi à calmer cette angoisse de mort pendant la vie.
Alors on va tout de suite donner la parole aux auditrices et aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Avec une auditrice qui nous appelle du Sénégal, de Dakar, c'est Mamanta. Bonjour Mamanta.
Bonjour Caroline.
Nous sommes à votre écoute, le docteur Gavard vous écoute, allez-y.
Bonjour.
Bonjour.
Comme je l'ai expliqué,
oui.
Moi quand je prends la parole en public, j'ai du mal à contrôler mes émotions. Il m'arrive souvent de pleurer quand je parle de bien de quelqu'un, par exemple. Quand je suis en train d'apporter un témoignage sur une personne, par exemple, là, oui, je ne peux plus me contrôler. Soit je pleure, soit je ne peux plus continuer.
Et c'est très souvent que ça vous arrive, Mamanta, justement, ces débordements de larmes ?
Oui, ça m'arrive très souvent. Et puis, ce qui me choque, c'est que à chaque fois que je prends la parole pour apporter un témoignage, soit sur une personne, dans le bon sens, bien sûr, oui, je me mets à pleurer.
Et dans votre vie de tous les jours, vous avez souvent l'occasion de prendre la parole. J'imagine, je ne sais pas quelle est votre activité professionnelle, votre activité sociale. C'est nécessaire dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous faites ?
Je suis étudiante à la fac de droit. Oui, et puis il m'arrive souvent de prendre la parole.
Et comment réagit votre entourage ?
Bon, parce que une fois, un camarade m'a fait une remarque que je trouve très bête. Donc, il m'a dit que pourquoi tu n'arrêtes pas ce cinéma ? Alors que c'était pas du cinéma, c'était quelque chose que je pouvais pas contrôler. Je veux le changer, mais je peux pas. Parce que à chaque fois que je me mets, par exemple, à expliquer une chose qui me tient vraiment à cœur, donc quand je pleure, je n'y peux rien.
Je vais donner tout de suite la parole au docteur Marie-Claude Gavard. J'ai juste une dernière petite question. C'est depuis toujours, quand vous étiez petite fille, c'est pareil, quand vous écoutiez des choses, ou c'est venu en grandissant, en étant un petit peu plus mature,
non,
plus mûre ?
Non, c'est depuis que je suis toute petite. Oui, je pense que c'est inné en moi.
C'est quelque chose qui est avec vous, d'après vous, ça fait partie de votre personnalité. Docteur Marie-Claude Gavard, qu'est-ce que vous pouvez dire ou demander à Mamanta ?
Alors déjà, il y a plusieurs choses. L'hypersensibilité qui semble être son cas depuis l'enfance, effectivement, est une empathie un peu débordante qui dérange cette jeune femme à ceci près qu'il faut aussi qu'elle voit que c'est un avantage. Là, c'est trop, mais c'est très intéressant d'être en empathie avec les autres. Elle fait du droit, elle va bien mieux comprendre ses futurs clients, si elle est avocate notamment. Si elle était insensible, il y aurait d'autres embarras. Alors, au niveau de son hypersensibilité, je pense qu'elle aurait intérêt, pour essayer de gérer ça, ce qui est évidemment pas facile dans son cas, elle pourrait faire de la méditation, des choses pour l'apaiser. Et lorsqu'elle parle positivement de quelqu'un, anticiper ce qu'elle va dire en y mettant de la joie. C'est-à-dire qu'elle y met un émotionnel envahissant, elle pourrait peut-être envisager d'y mettre juste de la joie et du plaisir, mais dans un conditionnement. Voyez.
Est-ce que ça veut dire carrément s'entraîner, faire des discours à la maison ou devant un ou deux camarades, en essayant justement de moduler ses émotions?
Mais exactement, et faire comme si elle arrivait sur une scène de théâtre et qu'elle avait un rôle à jouer. Dans ce cas-là, elle met une petite distance avec sa sensibilité personnelle. Et je pense que l'entraînement, là, peut être tout à fait intéressant pour elle. Autre chose, lorsqu'elle nous dit qu'en public, elle a du mal à prendre la parole, là, je pense que si l'on pense que l'on va échouer, qu'on ne va pas être intéressant, et que l'on attribue beaucoup d'importance à ce que l'on imagine être le regard négatif de l'autre, on est très mal à l'aise.
Un conditionnement.
C'est un conditionnement. Et c'est-à-dire qu'on fantasme que les autres sont venus nous écouter, nous personnellement, alors qu'en fait, s'il y a un message à passer, la personne vient écouter le message, et qu'il soit porté par Pierre, Paul ou Jacques n'a absolument aucune importance. Mmh. Donc, c'est vraiment se mettre en retrait personnel et voir que la chose dite est la chose importante. C'est-à-dire que cette timidité en public est d'autant plus importante que l'on se met personnellement au centre de cette histoire, alors qu'en fait, on n'est qu'un outil de ce qui se passe.
Mmh. Est-ce que vous avez envisagé, Mamanta, comme ça, de faire des petites séances d'entraînement?
Oui, je l'ai envisagé, mais je pense que c'est pas ça réellement le problème, parce que j'ai l'habitude vraiment de parler, mais ce qui me pose problème, c'est pourquoi je pleure tout le temps.
Vous êtes en recherche d'une cause.
Merci, c'est ça.
C'est ça.
Oui, mais alors là, la cause, vous savez, vous pouvez tout à fait avoir ce qu'on appelle le syndrome d'hypersensibilité. Alors, peut-être que dans l'enfance, vous avez été confronté à des événements traumatisants qui vous ont blessé, mais c'est même pas sûr. Il est possible qu'effectivement, dans votre personnalité, il y ait une empathie très forte, et ça, c'est en vous entraînant. Si vous n'avez pas retrouvé de cause dans l'enfance, à ce moment-là, vous avez intérêt à y réfléchir et voir les conséquences. Mais en vous entraînant, vous avez des chances d'améliorer les choses.
Mamanta, vous avez réfléchi à votre passé en vous disant, est-ce qu'il y a eu des événements qui ont pu provoquer cette sensibilité, ou vous n'êtes pas encore vraiment penchée sur cette question?
Si. Et j'ai trouvé la réponse. Je pense qu'aussi qu'elle a raison. Oui, que dans mon enfance aussi, j'avais vécu des choses qui, vraiment, à chaque fois que j'y repense, j'ai le cœur qui est triste. Et puis, ouais, c'est ça.
Ces souffrances du passé qui ressurgissent quand vous êtes exposé au public.
Je sais pas si les deux ont lien ou pas, mais je pense que si effectivement il y a un lien, donc je pense que c'est raisonnable.
Docteur Gavard.
À ce moment-là, effectivement, vous soulevez le tableau du stress post-traumatique qui peut, suite à un événement traumatisant, être revécu sous une autre forme, mais avec un grand stress. Et ça peut durer extrêmement longtemps. C'est-à-dire, il est important de revenir sur l'événement traumatique, si possible avec un thérapeute, si vous en avez la possibilité, pour tourner cette page et vraiment inscrire ça dans le passé et voir que le présent n'est plus en connexion.
Voilà pour ces conseils. Mamanta, on vous souhaite une excellente journée à Dakar. On va partir pour Bamako, pour le Mali. Youssouf est avec nous en ligne. Bonjour Youssouf.
Oui, bonjour Caroline et bonjour docteur.
Bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
En fait, moi, mon problème est que j'ai une colère extrêmement grande. Donc, je voulais demander au docteur s'il y a des méthodes pour diminuer l'excès de colère là.
Youssouf, est-ce que vous avez identifié ce qui vous met en colère?
Bon, oui, j'ai identifié certains caractères, par exemple l'injustice et puis les trucs de mensonges et autres là. Et très généralement, je ne me mets pas en colère directement. Il faut que j'avertisse la personne une première fois, sinon une deuxième fois aussi. Mais dès que je me mets en colère déjà, donc je n'arrive plus à me contrôler en réalité.
Vous avez l'impression quand cette personne continue, d'une certaine manière, elle vous manque un petit peu de respect?
D'une voix de respect, voilà. Donc finalement, quand je me mets en colère quand même, je n'arrive plus à me contrôler en réalité.
Mais quand vous dites « je n'arrive plus à me contrôler », ça veut dire quoi? Vous en venez aux mains, vous faites quoi?
Je peux pas garder le silence. C'est possible que je devienne agressif, sinon je peux pas me contrôler en réalité.
Vous criez, mais est-ce qu'il vous arrive de vous battre?
Des fois, c'est possible. Si la personne me met dans la situation de me battre, c'est possible que je me bats aussi. Parce que j'ai plus le contrôle de moi-même en réalité.
Et quand vous étiez petit, je ne sais pas quel est votre âge, Youssouf, mais est-ce que quand vous étiez petit, c'était la même chose?
Moi, je suis dans les trentaines. Et quand j'étais petit aussi, c'était le même cas.
Docteur Marie-Claude Gavard.
Alors, il y a plusieurs choses à souligner. D'abord, Youssouf, avez-vous déjà imaginé quelqu'un réagissant comme vous le faites lorsque vous avez dit quelque chose qui le contrariait? Vous savez, l'effet miroir peut être un frein formidable, parce que vous voyez bien que quand quelqu'un est très en colère, son attitude n'entraîne pas le respect de la personne en face. Au contraire, on se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive, pour qui il se prend, etc. Donc déjà, vous pourriez penser que si vous êtes en face de quelqu'un très en colère, vous allez trouver que c'est inopérant. Alors, la colère est un sentiment qui vient dans un deuxième temps. Initialement, il y en a un qui peut être effectivement la frustration, la peur de l'abandon, la peur, la jalousie, enfin bon, des tas de sentiments. Lorsqu'ils ne sont pas bien analysés, il y a la colère qui se met en place et on s'agite comme je ne sais quoi dans un bocal pour changer la situation. Or, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire puisque l'autre ne va pas être réceptif. Donc là, vous dites que vous avertissez l'autre, mais c'est vous mettre en positionnement de toute puissance parce que vous avertissez et vous pensez que l'autre va changer, notamment changer de névrose ou changer de personnalité. Lorsque vous voyez que quelqu'un ne vous entend pas, peut-être est-il nécessaire de verbaliser les choses différemment, mais c'est dommage que vous vous abîmiez la santé physique et morale en vous mettant en colère, puisque là, ce sera encore beaucoup moins efficace. De plus, c'est ne pas être dans le respect de l'autre. Un menteur qui est en face de vous, si vous savez qu'il est menteur, vous n'allez pas en faire une personne honnête parce que vous êtes mis en colère. Donc, vous voyez, vous avez une attitude, et je pense que vous avez intérêt à l'intellectualiser, à la ressentir, qui est tout à fait déplacée, inopérante et très embêtante pour vous, parce qu'elle est inefficace. Et lorsque vous allez jusqu'à la violence, vous imaginez que vous risquez d'être la première victime.
Youssouf, est-ce que vous avez déjà vu certaines de vos crises de colère, je vais vous poser une question directe, servir à quelque chose?
Oui. Bon, très généralement, ça sert à rien, c'est après, c'est des regrets et des trucs négatifs, mais finalement, je trouve, quand je me mets en colère, finalement, je décide que c'est la seule solution en réalité pour résoudre ce problème. Donc, finalement, je me lance dans vraiment...
Youssouf, vous faites des activités un petit peu pour vous défouler, vous avez une activité physique, vous faites des choses un peu pour cette énergie débordante qui est en vous, pour essayer de faire quelque chose,
non,
ou pas du tout?
Non, dans l'enfance, je faisais du sport, mais maintenant, avec le boulot, j'ai pas trop le temps. Donc,
en même temps, vous avez le temps de vous mettre en colère, donc vous faudrait peut-être plutôt se remettre au ballon rond ou quelque chose, ça serait meilleur pour votre santé. Hein.
Ok, d'accord.
Docteur Gava.
Alors, Youssouf, vraisemblablement, quand vous étiez enfant et que vous étiez frustré, malheureux, non compris, on ne vous a pas expliqué ce qui se passait. Et les enfants ont souvent comme seul outil de manifestation la colère. Malheureusement, ils se font punir, donc ça augmente la frustration. Et vous voyez que vous-même, vous dites que, en général, vos colères ne servent à rien, ce qui est tout à fait vrai. Alors, lorsque vous sentez frustré, non compris, vous pourriez reconnaître votre douleur, dire « Ah, la situation est pour moi insupportable ». Déjà, vous n'iriez plus vers la colère. Voyez comme vous êtes dans la douleur et vous dites vous-même « Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de résultat intéressant dans votre colère ». Donc, prenez soin de vous en disant « Je vais trouver une autre façon de m'exprimer », mais reconnaissez votre douleur morale. Peut-être que c'est un début.
Ne pas être en colère contre vous-même sera déjà apparemment pas mal, d'après ce que dit le docteur Gavard. On vous souhaite une excellente journée, Youssouf, à Bamako. On part pour Kinshasa, en RDC, retrouver Patrick. Bonjour, Patrick.
Bonjour, madame.
On est à votre écoute, allez-y.
Oui, bonjour, docteur.
Bonjour.
Oui, moi, mon problème est que je suis souvent timide en public. Mmh. Bon, c'est là, bon, quand j'ai rendez-vous avec des amis pour prendre parole, donc il faut me préparer bien avant. Donc, prendre un peu d'alcool pour franchir mes limites. Bon, si je ne prends pas ça, vraiment, cela me pousse vraiment à la solitude. Je ne sais pas, que pouvez-vous me donner comme conseil pour ou une autre alternative pour gérer cette situation.
Une question très intéressante, hein, docteur Marie-Claude Gavard, parce que c'est fréquemment le cas, on se désinhibe en buvant, mais c'est pas du tout la bonne méthode.
Ah non, c'est pas la bonne méthode, parce qu'il faut aller à la source. Lorsque vous dites que vous êtes timide, c'est que vous avez une idée de vous comme étant moins intéressant, moins intelligent, moins beau, moins je ne sais quoi, que les autres. Et que votre parole ne va pas les intéresser. C'est-à-dire que vous mettez tous les autres sur un piédestal et vous, vous estimez que vous n'êtes pas à leur hauteur, vous n'avez pas de valeur. Là, c'est vraiment une conception à changer. Peut-être que dans l'enfance, vous avez eu des problèmes à l'école où vos parents vous ont peut-être dit que vous étiez nul par moment, etc. C'est-à-dire, vous avez intérêt à essayer de retrouver quelle erreur pédagogique vous a transformé en quelqu'un de timide, c'est-à-dire dévalorisé. Et maintenant, à l'âge adulte, dites-vous bien que les autres ont la même valeur que vous. Et de toute façon, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, vous n'êtes pas inférieur aux autres. Et votre parole est aussi intéressante que celle des autres. Et quelquefois, aussi inintéressante que celle des autres.
Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on boit, on est plus intéressant. Ça, c'est
une
certitude.
Au contraire. Et puis, il faut quand même faire très attention parce que l'alcool entraîne une dépendance rapide. Vous avez une levée d'inhibition avec l'alcool. Mais si vous vous dites que vous avez la même valeur que les autres, il n'y aura plus cette inhibition. Et donc, vous avez intérêt à réfléchir à ça. Vous n'avez pas des amis particulièrement géniaux qui font que vous pourriez penser que vous êtes particulièrement nul. Ça n'existe pas.
Voilà, Patrick, pour ce conseil, essayez d'être davantage vous-même et moins justement d'utiliser ce support de l'alcool pour parler avec les autres. On va partir pour la République démocratique du Congo. On reste en RDC, autre région. On va à Kikwit retrouver Rachidi. Bonjour, Rachidi.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Nous sommes à votre écoute. Le docteur Gava est là pour répondre à vos questions. Allez-y.
Oui. En fait, j'avais une opportunité d'emploi, mmh. et par la suite, cette opportunité n'a plus marché. Mmh. Et actuellement, je vis dans une perte totale et puis dans l'angoisse. Alors, pour surmonter ça, je me dis, il faudra peut-être prendre un peu d'alcool et, pour oublier ça. Donc maintenant, je vis vraiment dans l'angoisse, je ne sais plus me saisir, je me sens vraiment très abattu même. Et je ne sais plus faire autre chose. Puis je voudrais savoir si le docteur pouvait me produire des conseils par rapport à ça.
Rachidi, vous dites, je pense que je pourrais prendre de l'alcool pour aller mieux. Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez fait?
Pas encore, je voudrais essayer.
essayer l'alcool. Vous avez entendu auparavant Patrick, lui qui essayait l'alcool pour sortir de sa timidité, et docteur Marie-Claude Gavard, je pense que là aussi vous allez dire c'est vraiment, vraiment pas la solution.
Mais c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, ce que vous décrivez comme tableau, c'est un tableau de dépression réactionnelle. C'est-à-dire, vous avez été extrêmement déçu et ça entraîne une anxiété financière par rapport à votre vie, une anxiété professionnelle, et donc vous avez ressenti un coup de massue et ça a déclenché une dépression qui est un bug de nos neuromédiateurs, c'est-à-dire les produits chimiques que nous avons dans le cerveau. Donc c'est une maladie qui n'est pas grave en soi parce que bon, on peut tout à fait bien la soigner et il n'y a pas de séquelles. C'est une maladie physique à facteur déclenchant psychologique. Là, vous avez eu un grand choc. Lorsque vous dites que vous aimeriez éventuellement prendre de l'alcool pour oublier, mais non, et précisément, il ne faut justement pas oublier. Vous êtes dans une réalité qui est anxiogène. Vous avez intérêt à faire et du sport et de la méditation pour calmer ses angoisses, voir si vous avez la possibilité de prendre un antidépresseur contre la dépression, vous irez rapidement mieux.
Qui sera prescrit par un médecin, bien sûr.
Ah oui, qui sera prescrit par un médecin. Mais surtout pas d'alcool, vous allez empirer votre cas.
Rachidi, ce qu'on entend bien, c'est que vous avez vécu quelque chose de dur et vous êtes en train d'en subir les conséquences. C'est pas l'alcool qui va améliorer les choses.
L'alcool va empirer les choses en vous mettant dans une situation qui n'est pas la réalité, en vous empêchant de réfléchir correctement et éventuellement en vous déprimant encore davantage.
Voilà pour cette réponse, Rachidi. Bon courage hein, en RDC à Kikwit. Et on termine avec cet auditeur, avec Youssouf qui est au Niger, à Niamey. Bonjour Youssouf.
Bonjour.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
On est à votre écoute, Youssouf. Allez-y.
D'accord. Ben, en ce qui me concerne, c'est juste que par moment, je suis de mauvaise humeur. Je peux me réveiller comme ça, sur le pied gauche, comme on dit, et j'ai envie de rien. Je suis triste, je déprime limite. Alors que à la base, ben, dans ma vie, tout va bien. Donc, certaines fois, je ne comprends pas. Et quand j'essaie de comprendre, ça me fait encore un peu plus déprimé. Je me demande par moments si je suis, qu'est-ce qui m'arrive en fait, si je suis pas un peu, comment on appelle l'expression là, si je suis
dépressif,
pas un peu, comment on appelle,
dépressif. Voilà, dépressif. Cette tristesse, elle vous prend dès le matin au lever ou c'est quand vous êtes confronté à certains événements au cours de la journée?
Oui, ça peut me prendre souvent le matin, je me réveille avec. Et quelquefois aussi, ça peut venir en journée, ça peut durer toute une demi-journée.
Est-ce que vous avez repéré le moment où ce changement de comportement est intervenu ou vous avez toujours été comme ça, un petit peu maussade?
J'ai toujours été comme ça, je pense que ça fait longtemps que je suis comme ça. Ce qui a un peu changé, c'est que avant j'étais tout seul, donc j'étais chez moi, j'avais ma chambre à moi, donc quand ça me prenait, je voulais pas forcément sortir, et même quand je voyais les gens, j'étais désagréable avec eux, donc je préférais rester dans mon coin. Sauf que là, je suis marié, donc je suis avec ma compagne, et au début, c'est un peu difficile en fait, parce que cette personne-là pense toujours que c'est à cause d'elle, elle nous pose des questions, etc., alors que c'est juste moi, quoi.
Docteur Marie-Claude Gavard, on entend bien la détresse de Youssouf, il aime la personne avec laquelle il vit, et lui, il a du mal avec lui-même.
Oui, lorsque vous dites que vous avez tout pour être heureux, vous voyez, c'est une réflexion que j'entends très fréquemment dans mon cabinet, et en fait, effectivement, la personne a beaucoup d'éléments. Là, vous êtes avec une femme que vous aimez et qui cherche à vous comprendre, ce qui est vraiment une grande belle chose. Mais dites-vous bien que si vous êtes dans un état maussade et que ça dure depuis l'enfance, c'est qu'il s'est passé des choses pénibles dans votre enfance qui se sont inscrites. Et par exemple, vous avez une vision du monde difficile parce que inconsciemment, vous vous rappelez des moments difficiles que vous avez vécu. Donc, vous avez tout intérêt à retourner dans vos souvenirs, quitte à interroger votre famille, pour voir ce qui a pu vous déstabiliser et vous donner une vision de la vie plutôt grisée. Certes, à l'heure actuelle, vous avez tout fait pour que les choses fonctionnent, mais il y a une racine qui vous perturbe et que vous avez intérêt à identifier.
Youssouf, est-ce que vous avez justement comme ça réfléchi à votre passé déjà en disant, est-ce qu'il y a pu y avoir une cassure, un deuil, quelque chose, un événement qui m'a fait particulièrement du mal et comme on dit dans le langage de tous les jours, que je n'ai pas digéré?
Franchement, j'y repense souvent, je me dis que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, c'est forcément quelque chose. Mais au fini, je réfléchis, je tourne en rond, mais j'ai aucun résultat.
Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus.
Voilà, c'est exactement ça. Donc je me dis que peut-être que c'est juste comme ça. C'est juste comme je suis.
Alors, juste comme ça, vous savez, c'est bon, ça, on peut passer sur une phrase comme ça, parce que peut-être c'est l'atmosphère d'éducation qui vous a fait douter de vous ou qui vous a fait craindre l'avenir. Donc, il s'est passé des choses, pas forcément des drames épouvantables, pas du tout forcément, mais peut-être une atmosphère éducative. Parce que rechercher la solitude comme vous l'avez recherchée, ça paraît un peu outrancier si vous n'aviez pas vécu des choses pénibles.
Ça peut être aussi une façon qu'on avait de vous parler ou pas trop de s'occuper de vous. Vous êtes senti un peu délaissé. C'est pas forcément un grand drame pour. C'est bien ce que vous
expliquez.
Exactement,
tout à fait.
Exactement. Youssouf, est-ce que vous avez déjà parlé de ça à un médecin, ne serait-ce qu'à un médecin généraliste?
Non, j'ai jamais parlé. C'est ça, médecin. La première personne à laquelle j'ai vraiment parlé, c'est ma femme, parce que à chaque fois, je remarquais que ça lui faisait du mal, et puis je lui faisais, mais non, c'est pas toi, c'est moi en fait. Je t'aime, il n'y a aucun souci entre nous et tout. Et la chance que j'ai, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer. Et là, quand même, du coup, je remarque qu'il y a quand même un peu de progrès. Même quand ça va pas, j'essaie de forcer un peu, de lui faire la causette et tout.
Docteur Gava.
Oui, et donc on peut penser que si la communication vous apaise maintenant, c'est que vous avez certainement manqué de communication dans votre enfance, des choses qu'on ne vous a pas expliquées.
Et peut-être justement en parler au moins à un médecin, en plus de votre femme, pour voir avec lui ce qu'il en pense. Peut-être qu'il pourrait vous donner quelques pistes et ça pourrait être quelque chose de bien pour vous. On vous souhaite une excellente journée au Niger, Youssouf. Aussi sur ces émotions, on y revient, ces émotions, parfois on attribue certaines sautes d'humeur à l'activité hormonale. Est-ce que c'est quelque chose qui est retenu comme explication quand on n'arrive pas à se contenir ou c'est vraiment quelque chose d'accessoire?
Oh, écoutez, c'est vraiment accessoire. Ouais. Je crois qu'il faut aller chercher ce qui engendre ça. Les hormones, évidemment, ont un impact, mais cherchons d'autres causes.
Et pour ce qui est des émotions contagieuses, certaines personnes ressentent une tristesse et il y a cette communication à l'ensemble de la communauté présente de cette émotion qui est pourtant partie d'un individu, une émotion singulière. Docteur Marie-Claude Gava, comment est-ce qu'on l'explique?
Alors, il y a l'empathie, et surtout, lorsque quelqu'un parle de quelque chose de très touchant, chacun peut se projeter dans cette situation. Si il n'y a aucun impact personnel, aucune possibilité qu'on se retrouve dans une situation comme ça, on sera moins touché. Mais c'est bien pour ça que même les dessins animés d'enfants peuvent nous faire pleurer, parce que ça nous rappelle des choses de l'enfance ou un risque par rapport à la vie.
On va partir tout de suite pour avoir un autre éclairage. On part pour le Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Et on vous retrouve, professeur Prosper Gandao, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie au centre hospitalier départemental et universitaire de Borgou à Parakou. Professeur, oui. Est-ce que des patients viennent justement vous consulter pour notre sujet du jour dans Priorité Santé en disant ben, j'en peux plus, je suis trop colérique ou à l'inverse, je suis beaucoup trop timide? Est-ce qu'on vient vous voir pour ça ou davantage pour, on va dire, des maladies?
Effectivement, quelques rares patients arrivent pour demander de l'aide par rapport à la colère qui n'arrive pas à contenir et qui leur fait beaucoup de mal. De la même manière, il y a quelques adolescents qui viennent nous parler de leur timidité, qui les empêche de pouvoir bien composer leurs devoirs, surtout répondre à une question que pose l'enseignant, quand ils sont en situation d'apprentissage, la timidité les amène à ne jamais répondre, même quand ils ont la réponse. Sinon, généralement, les gens ne viennent pas d'eux-mêmes pour nous consulter parce que l'idée persiste que le psychiatre, c'est le malade des fous.
Et justement, professeur Prosper Gandao, est-ce qu'il y a des émotions qui sont particulièrement mal vues dans le contexte béninois ?
Tout à fait, les émotions qui sont particulièrement mal vues, c'est celles qui amènent surtout l'individu à commettre des actes qu'il regrette quelque temps après, surtout la colère. Mmh. La colère amène des gens à faire des casses. Des pères qui frappent les enfants, des mères qui cassent tout à la maison, ce qui amène à faire des dépenses, de nouvelles dépenses, et conduit même parfois donc à des menaces donc de divorce. Il y a des enfants qui sont disons incorrects vis-à-vis donc des personnes âgées du fait de la colère qu'ils n'arrivent pas à contenir parce qu'ils ont été frustrés parce qu'on leur a dit certaines choses. Donc la colère et ses conséquences n'est pas quelque chose d'acceptable.
Avec tout à l'heure le docteur Marie-Claude Gavard, on a parlé de comment contenir cette colère, notamment la relaxation, essayer aussi de se remémorer certains événements de son passé. Vous, quelle piste est-ce que vous proposez à vos patients ?
Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que les recherches se font partout, comme je l'ai dit, qui ne viennent pas directement en psychiatrie. Mmh. Parfois, les gens pensent que la colère elle est héréditaire, parce que le père l'est, le grand-père l'est, donc ça a été transmis. Parfois, les gens pensent actuellement que c'est des manifestations diabolisantes et diaboliques. Et même dans des situations de délivrance par rapport à la possession par un esprit malsain, il y a des séances de prière qui sont organisées, mais le guérisseur aussi peut faire quelque chose pour délivrer son patient, puisque les coléreux regrettent quelque temps après l'acte qu'ils ont posé. Ils se disent qu'ils ont posé l'acte sous l'influence d'une puissance, d'un esprit qu'ils n'ont pas maîtrisé. Sinon, ce que nous leur disons souvent, effectivement, qu'ils respirent.
Et vous, justement, professeur Prosper Gandao, psychiatre en milieu hospitalier, vous proposez des solutions, des pistes qui vont avec toutes ces pratiques traditionnelles. Vous ne remettez pas en cause l'héritage culturel pour vos propres solutions.
Non, pas du tout, Bien sûr. Notre idée, ce n'est pas de dire tout cela, c'est faux, c'est pas vrai. Mm-hmm. Mais ce que nous faisons, effectivement, nous leur demandons, premièrement, qu'ils s'écoutent, qu'ils apprennent à respirer, qu'ils s'écoutent, qu'ils se répètent des choses, des conduites qu'ils aimeraient accepter, adopter. On leur demande de méditer, de rentrer dans la peau de ceux qu'ils agressent, pour savoir que si on leur fait ce qu'ils ont fait à l'autre, est-ce que cela leur fera du profit? Donc, il faut qu'ils se donnent du temps de s'écouter. Et puis après, dans l'entretien, on discute avec eux pour voir d'où est parti le mal. Et généralement, on se rend compte que depuis l'enfance, l'éducation, soit ils ont eu des parents qui leur ont inculqué des notions très dures, très sévères, et ils ont pris les parents comme des modèles, puisque c'est les premières relations qu'ils ont développées, ce qui fait que quand les parents sont coléreux, ils ont développé la colère. Et par la suite, ils ont souffert de manque d'écoute dans l'enfance. Ils ont une carence à ce niveau. Ou alors, c'est l'inverse. On a constaté chez certains qu'ils ont bénéficié d'une hyper-permissivité. Dès qu'ils ont besoin de ci, on leur donne. Dès qu'ils ont besoin de ça, ils leur donnent. Donc, au fur et à mesure qu'ils sont en train de prendre de l'âge et qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation où la solution immédiate par rapport aux besoins est apportée, ça développe chez eux des sentiments qui font qu'ils élèvent le ton, ils agressent, ils agressent verbalement ou physiquement. Ce sont autant d'éléments que nous voyons. Mais il y a des cas où vraiment ils n'arrivent pas à se contrôler, et on est obligé de passer par exemple à un traitement médicamenteux. Surtout ceux qui sont hyper tristes, ceux qui sont déprimés, on est obligé de mettre des antidépresseurs. Ceux qui ont donc la colère à fleur de peau, parfois on leur donne quelques tranquillisants, qui doit être donc le démarrage, mais continuer par vraiment un travail sur leur comportement, sur leur corps.
Vous disiez tout à l'heure, c'est ma dernière question, professeur Prosper Gandao, qu'il n'était pas toujours simple dans votre contexte d'aller voir le psy parce qu'on associait ça à la folie, hein, pour parler communément. Oui. Alors comment s'établit cette relation de confiance entre soignant et patient ? Comment justement on va expliquer tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez apporter comme bienfait aux patients ?
Oui, il y a ceux qui commencent donc à travers différentes lectures, ceux qui commencent par comprendre que ce n'est pas le psychiatre, n'est pas le médecin du fou furieux qui casse tout. Il y a certains qui commencent par venir d'eux-mêmes. Par contre, parfois plutôt, c'est les autres thérapeutes qui ont rencontré des sujets hypertendus, dont ils contrôlaient donc l'hypertension par une thérapie médicamenteuse bien adaptée, qui constatent que le sujet quand même développe une décompensation de son hypertension, qui amorce un entretien et qui constate effectivement que la colère peut induire des céphalées et peut entraîner une poussée hypertensive qui les oriente vers nous. Donc, d'autres médecins peuvent orienter leurs patients vers nous, les psychiatres. Mais quand ils viennent, effectivement, à partir de la première écoute, des premiers entretiens, ils se rendent compte totalement de l'erreur qu'ils font, des appréciations qu'ils font des psychiatres, et eux-mêmes viennent, et de bouche à oreille, c'est ce qui est particulier chez nous, tout le monde est à la fois médecin et prescripteur. Quand ils sont dans un milieu où on parle d'une plainte, on manifeste une plainte qui est analogue à la leur, ils disent « Ah, dans mon cas, j'ai été voir tel ou tel médecin », ce qui fait que certains commencent donc par être orientés par d'autres qui sont venus vers nous maintenant.
Et c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Merci beaucoup, professeur Prosper Gandao. Je rappelle que vous êtes également professeur de psychiatrie d'adultes à l'université de Parakou au Bénin.
Parakou, 106.1 FM.
Et c'est presque la fin de notre émission, à priorité santé consacrée aux émotions. Comment limiter certains débordements? Docteur Marie-Claude Gavard, on a bien compris qu'il y a le contexte culturel, mais aussi des points communs. Il y a des choses qui traversent toutes les frontières, toutes les cultures.
Oui, mais on n'a pas encore parlé de cette erreur pédagogique extraordinaire qui était que les garçons n'avaient pas le droit de pleurer, ils n'avaient pas le droit d'avoir peur.
D'exprimer leurs sentiments.
Exprimer quoi que ce soit, parce que sinon on les traitait de filles, ce qui est une insulte tout à fait extraordinaire.
Oui,
et donc là, il est important que les hommes puissent se connecter à leurs émotions.
Comment est-ce qu'on peut préméditer certaines émotions? Là, on est plutôt dans l'inverse. Depuis tout à l'heure, on fait le contrôle des émotions débordantes. On voit bien certains comédiens ou même certaines personnes dans notre entourage qui sont de talentueux menteurs et qui vont simuler certaines émotions. Comment est-ce qu'on y arrive?
Alors, il y a une espèce de confiance en soi qui permet de le faire. Il y a aussi l'envie de porter un masque. Certains portent un masque avec beaucoup de talent parce qu'ils veulent arriver à un résultat donné. Donc, c'est une histoire d'expérience, d'expérimentation et d'habitude.
Alors, beaucoup de méthodes, beaucoup de livres sur la sérénité qui sont publiés en ce moment, le bonheur aussi, le calme, la relaxation, c'est très en vogue. Est-ce que pour vous, c'est lié au contexte plutôt inverse de notre monde ou c'est un signe du temps, docteur Marie-Claude Gavard? Est-ce qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique?
Alors, c'est extrêmement bénéfique à partir du moment où en parallèle, il va y avoir une critique des systèmes qui abîme tellement l'humain.
On va pas simplement dire voilà ce qu'il faut faire pour vous, mais autour ça reste identique.
Ah mais c'est ça, parce que effectivement il faut méditer, on a intérêt à méditer, à se relaxer pour augmenter notre bien-être, mais surtout à ne pas être et continuer à favoriser des systèmes qui matraquent l'homme.
Merci beaucoup, docteur Marie-Claude Gavard, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychothérapeute. Le titre de votre ouvrage, Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, aux éditions Marabout. L'alimentation et la santé avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste, Stéphane, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. On va revenir avec vous sur les dernières études publiées sur la consommation de viande. Et Stéphane, vous allez revenir en particulier sur cette étude qui a entraîné beaucoup de polémiques. Alors pourquoi autant de remous dans la presse scientifique internationale ?
Alors déjà, quand on prend le titre de cette publication, donc qui s'est appelé « Nouvelle recommandation, pas besoin de réduire la consommation de viande rouge ou de viande transformée pour rester en bonne santé », a fait l'effet d'une bombe par déjà son titre. Parce qu'on est dans un contexte international où il y a de plus en plus de travaux scientifiques qui sortent pour dire qu'il faut plutôt réduire la consommation de viande rouge et de viande transformée. Et la deuxième chose, c'est qu'on est aussi dans un contexte où il y a de beaucoup de publications, donc la dernière qui a été faite par le Lancet et la commission EAT Lancet, pour dire que aussi il faut réduire la consommation de viande pour une question environnementale. Donc c'est vrai que ça a créé une sorte de séisme avec ce papier qui a été publié par les annales de médecine interne américaine, avec 6 publications scientifiques, une synthèse de recommandations et un éditorial assez dur justement disant « allez-y, consommez comme vous voulez ».
Alors justement, les éléments mis en évidence pour conclure qu'on peut donc manger autant de viande que l'on souhaite sans impact sur la santé, il s'agit là bien sûr du titre de l'étude. Hein.
Alors ils ont utilisé 3 arguments. Alors le premier qui est de dire qu'effectivement il y a un impact mais qu'il est mineur, donc du coup qui peut être tout à fait mis de côté. Le deuxième, c'était que l'homme est un omnivore, c'est assez curieux, et que du coup l'omnivore n'a pas vocation, volonté à ne pas manger de viande. Et enfin, une synthèse qui disait, qui était là encore plus curieuse, qu'en tenant compte de tous ces arguments, il faut ignorer les recommandations précédentes, toutes les recommandations, et qu'on peut continuer à manger de la viande comme on le souhaite, comme on le fait habituellement, sans aucune restriction.
Alors on l'a dit, il y a beaucoup de polémiques après la publication de cette étude, et forcément cette question, pourquoi autant de remous ?
Alors, elle a soulevé beaucoup de polémiques sous 2 angles différents. Un premier qui est l'angle scientifique et un deuxième qui est l'angle éthique. On y reviendra après. Donc, sur le plan scientifique déjà, il y a eu beaucoup de biais ou de curiosité. D'abord, les auteurs ont conclu qu'il y avait un effet sur la santé, mais qu'il était très, très mince, on va dire, et qu'il fallait du coup l'exclure, ce qui est assez paradoxal, puisque s'il y a un effet, même mince, normalement, on devrait en tenir compte. Ils se réfèrent à des études qui vont comparer des mangeurs de viande à des gens qui mangent moins de viande, en excluant totalement les études qui comparent des mangeurs de viande contre des végétaux. Donc là aussi, c'est un peu curieux. Ils ont exclu toutes les études de laboratoire sur le sujet, sur les animaux. Et enfin, ils ont exclu toutes les études sur l'impact environnemental. Donc ça fait quand même beaucoup de biais scientifiques déjà à la base. Et ensuite, le deuxième gros problème, c'est un problème éthique, puisque le premier auteur de cette étude avait des conflits d'intérêts très importants avec l'industrie agroalimentaire. Et c'était d'ailleurs l'auteur qui avait publié déjà il y a quelques années une étude sur la non-dangerosité du sucre, de la consommation de sucre, qui était aussi une étude financée par l'industrie agroalimentaire. Donc ça fait beaucoup en conflit d'intérêts, ça remet vraiment en cause la véracité du travail.
Alors vous, Stéphane, vous n'avez pas de conflit d'intérêts, donc vous allez pouvoir nous rappeler quels sont les risques pour la santé démontrés par une majorité d'études autour de la consommation de viande.
Alors oui, il y a un grand nombre d'études qui ont démontré qu'une consommation de viande en excès, principalement les viandes grasses, hein, comme le bœuf, le mouton ou le porc, qui sont riches en acides gras saturés, augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et de certains types de cancer. Et comme ce sont en grande partie les viandes rouges qui présentent ce profil, on a rapidement réalisé que depuis des années un raccourci disant que c'est la viande rouge en excès qui peut être nocive. Et de nombreuses études ont aussi démontré que la surconsommation de viandes transformées, comme les charcuteries par exemple, entraîne des risques accrus de cancer du côlon.
Alors, vos recommandations, Stéphane, en conclusion, hein, pour une consommation de viande raisonnable.
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il faut quand même rester modéré, hein, parce qu'il y a souvent beaucoup de propos anti-viande un peu durs. Il faut rappeler que s'il faut pas avoir peur de la viande, que c'est une des familles d'aliments, dans l'ensemble des familles d'aliments, qui est important à être consommé pour rester en bonne santé et avoir une alimentation équilibrée. Cependant, il faut quand même faire attention. Ce qu'on a dit, c'est que la consommation de charcuterie et de viande grasse doit être limitée, car en manger en excès augmente des risques pour la santé, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains types de cancers. Alors, si on suit les recommandations santé, on peut conseiller de consommer de la viande 3 à 4 fois par semaine, avec un maximum de consommation de 250 à 300 grammes de viande par semaine. Mais maintenant, via un autre débat qui est le débat environnemental. Et si on veut allier santé et environnement, les recommandations sont plutôt d'aller vers une portion de viande par semaine.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. À très bientôt dans Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène, Juliette Brault, Didier Bleu et aujourd'hui Diego Tenorio. Demain, on va parler du poids, du contrôle, des régimes, des compulsions, bonnes habitudes, bon comportement alimentaire, là encore. Alors si vous avez des questions, 33 1 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous, à chaque étape. RFI.